temps d'interprétation. Je crois que cela arrive très fréquemment dans les réunions que nous connaissons aux communautés européennes. Ce n'est pas un incident d'interprétation en tant que tel, c'est plutôt un incident technique. Mais cela montre combien il est facile et rapide de passer de la théorie à la pratique. Pour ma part, je voudrais vous présenter un exposé qui sera beaucoup moins théorique que ceux que nous avons attendus jusqu'à présent, qui sera beaucoup plus terre à terre. Je voudrais tout d'abord me présenter, ainsi que le service que je représente. Mon nom est Marco Benedetti, je suis italien et j'exerce les fonctions d'assistant du directeur général du service commun interprétation-conférence de la Commission des communautés européennes. Le directeur général est Madame Vanhoof Afferkamp, qui n'a pas pu venir ici malheureusement et que je représente. J'ai été moi-même formé dans le même service commun et je suis aussi interprète de conférences. Je vais essayer de vous présenter ici le point de vue de l'employeur. L'employeur qui est en même temps aussi un formateur d'interprètes, nous le verrons plus tard. Le service commun de la Commission assure l'interprétation aux réunions, bien entendu, de la Commission elle-même, mais aussi à d'autres institutions de la communauté européenne, le Conseil des ministres, le Comité économique et social, la Banque européenne d'investissement, en somme, à toutes les institutions de la communauté européenne, exception faite du Parlement européen et de la Cour de justice, qui ont eux-mêmes leur propre service d'interprétation. Avec 9 600 réunions et plus de 110 000 journées interprètes l'année dernière, la Commission est de loin le plus grand employeur d'interprètes du monde et le service commun, avec ses quelques 500 emplois, le plus grand service d'interprètes du monde. Si vous voulez établir une comparaison, le volume de travail correspond environ à 4 fois celui des Nations Unies, New York et Genève compris. Mais comme je le disais, le service commun n'est pas seulement un employeur, c'est aussi un formateur. Nous le verrons plus tard, il est devenu formateur pour subvenir à ses besoins. Quels sont alors ces besoins auxquels doit faire face le service commun? Quelle a été leur évolution? Quelles sont les perspectives? Et encore, y a-t-il eu et y a-t-il assez d'interprètes qualifiés pour couvrir ces besoins? Au début, la communauté européenne comptait 6 membres, les membres formateurs que vous connaissez, la France, l'Allemagne, l'Italie et les 3 pays du Benelux. Cela comporte 4 langues, le français, l'allemand, l'italien et le néerlandais, et 12 combinaisons linguistiques, c'est-à-dire les possibilités de couple linguistique entre ces 4 langues. L'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark a apporté en 1973 2 nouvelles langues, l'anglais et le danois. Nous arrivons ainsi à 6 langues et à 30 combinaisons linguistiques. Après l'élargissement à la Grèce et successivement à l'Espagne et au Portugal, depuis 1986, le nombre de langues officielles de la communauté européenne est de 9, ce qui représente 72 combinaisons linguistiques. Pour essayer de couvrir au mieux ces 72 combinaisons linguistiques sans trop recourir au relais, vous savez ce qu'est le relais, c'est quand l'interprète prend l'interprétation à partir d'une autre cabine. Pour ne pas trop recourir au relais, donc, il est fait appel dans une réunion où 9 langues sont interprétées en 9 langues à 27 interprètes, c'est-à-dire 3 par cabine. Si nous pensons maintenant aux élargissements futurs probables de la communauté européenne, on peut imaginer, dans un avenir proche, le nombre de langues officielles arriver au nombre de 12, soit 132 combinaisons linguistiques, puis rapidement de 15, voire de 16, lorsque l'élargissement se fera plus à l'est. Et cela représente 240 combinaisons linguistiques. Le nombre d'interprètes par réunion dépasserait dans ce cas les 50 pour pouvoir couvrir les combinaisons linguistiques nécessaires. Si nous reprenons le chiffre de 10 000 réunions par an, si nous appliquons le régime linguistique intégral dans toute réunion, ceci représente environ 500 000 journées interprètes par an. Et pour les 50 réunions que nous couvrons chaque jour, il faudrait imaginer un staff de 2500 interprètes. Actuellement, nous avons 400 interprètes permanents et nous faisons appel chaque jour environ à 200 freelances. 2500 interprètes, 50 réunions par jour, 500 000 journées interprètes par an. Est-ce possible, ou devrais-je dire plutôt, est-ce nécessaire? La réponse, bien entendu, est non. Même maintenant, toutes les langues ne sont pas interprétées ni parlées en réunion. Si nous reprenons les chiffres que je citais au début, 110 000 journées interprètes, 9600 réunions, même ceux qui ne sont pas forts en maths, et je demande pardon à l'interprète de citer autant de chiffres, mais j'ai presque fini, même ceux qui ne sont pas forts en maths se rendent compte que cela fait une moyenne de 11-12 interprètes par réunion. Donc, 5 maximum, 6 langues en moyenne par réunion. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que le service, depuis toujours, a essayé de couvrir les besoins réel en réunion, c'est-à-dire de donner aux participants, même si les participants viennent des 12 pays de la communauté, les langues dont ils avaient réellement besoin, en faisant recours à des régimes asymétriques. En effet, tout le monde sait qu'il est beaucoup plus facile de comprendre une langue que de parler cette même langue, si ce n'est pas sa langue maternelle, de façon convaincante, voire satisfaisante. Prenons mon exemple actuellement, grâce à l'amabilité des organisateurs et de Madame Tchenkova qui m'interprète actuellement en cabine. J'ai la possibilité de parler français, mais je n'ai pas, pour la suite des débats, la possibilité d'écouter le français, car il n'y a pas d'interprétation française. J'écoute l'anglais et ça va très bien comme ça. Donc, donner à tous les participants au maximum la possibilité de parler leur langue maternelle, mais interprétée dans un nombre de langues plus réduit et plus généralement connu. Voilà, je crois, la solution. D'ailleurs, si on veut prendre un exemple célèbre, à la réunion hebdomadaire de la commission, celle qui est présidée par le président Delors, le président Delors et les 16 autres commissaires qui représentent, qui proviennent de 12 pays de la Commission, de la Communauté européenne, peuvent parler 5 langues, le français, l'allemand, l'anglais, l'italien et l'espagnol, et l'interprétation se fait en 3 langues. Donc ils peuvent écouter 3 langues, le français, l'allemand et l'anglais. Et cela leur permet de tenir des réunions où les débats sont compréhensibles pour tous. Dans d'autres occasions, bien sûr, c'est toutes les langues qui sont et qui seront, à l'avenir, parlées et interprétées. Je pense, par exemple, aux grandes occasions protocolaires, mais aussi aux conseils européens, aux réunions où se trouvent des parlementaires élus, mais aussi des représentants des milieux professionnels et des milieux syndicaux, qui n'ont pas nécessairement la connaissance d'une autre langue que leur langue maternelle. Mais il serait déraisonnable de vouloir, de penser, étendre cette pratique de couverture totale à toutes les réunions, et je vois 3 raisons pour cela. Premièrement, la difficulté, voire l'impossibilité, de trouver autant d'interprètes qualifiés pour toutes les combinaisons linguistiques. Je vous rappelle, si on imagine 16 langues en l'an 2000, ou peu après l'an 2000, 240 combinaisons linguistiques. Deuxièmement, le coût d'une telle solution. Pour vous citer un exemple, une réunion en 9 langues coûte à Bruxelles environ 20 000 dollars. Le coût de l'interprétation pour l'année 91 a été, pour les 110 000 journées interprètes, de 78 millions de dollars. Et si toutes les réunions avaient été couvertes intégralement, au lieu de 78 millions de dollars, le coût aurait été de 180 millions de dollars, en admettant qu'on ait trouvé tous les interprètes qui étaient nécessaires. J'ai dit donc la difficulté de trouver les interprètes, le coût, et aussi l'indisponibilité, la non-existence d'autant de salles de réunion, il en faudrait au moins une cinquantaine par jour, aménagées, équipées pour accueillir 15 ou 16 cabines avec une bonne visibilité pour les interprètes et des bonnes conditions de travail. Mais à ces trois raisons, qui sont pratiques mais qui sont importantes, j'en ajouterai une quatrième, tout aussi fondamentale et beaucoup plus importante sur le plan humain. Faut-il avoir des interprètes en réunion qui ne font que de la figuration et qui ne sont là que pour des raisons protocolaires? Où trouver la motivation dans ce cas? Croyez-vous, croyez-moi bien, un interprète inutile, même s'il est bien payé, n'est pas un interprète heureux. Donc, en réponse à la question « Quels sont les besoins ?», je répondrai « Il faut cerner le plus possible les besoins réels, ne pas faire de l'art pour l'art, donner au délégué le service qu'il nécessite et à l'interprète le rôle utile, je dirais indispensable, qui est le sien. » L'autre question que j'évoquais au début est la suivante. Y a-t-il eu et y a-t-il actuellement assez d'interprètes qualifiés? La réponse a été et reste encore non, malheureusement. Car au début et à chaque élargissement de la communauté, le service a rencontré de grandes difficultés pour recruter un nombre suffisant d'interprètes de conférences ayant les langues et le niveau requis. En effet, un bon interprète de conférence doit assurer avec compétence l'interprétation consécutive et simultanée, quelle que soit la réunion, grâce à de très bonnes connaissances générales et linguistiques, ainsi qu'à une aptitude à l'analyse rapide d'une argumentation et à la communication orale. Il doit aussi disposer d'une formation universitaire complète dans quelques disciplines que ce soit, le droit, l'économie, les sciences, et une connaissance approfondie des pays dont il interprète les langues. C'est ainsi qu'un stage intensif de 6 mois a été créé dès 1964 à l'adresse de jeunes diplômés universitaires de toutes disciplines, sans notion d'interprétation, la sélection s'opérant au niveau de leurs connaissances et de leur aptitude à l'interprétation. D'ailleurs, près de la moitié des effectifs actuels du service commun est issu de cette formation. Je vous disais au début, le SCIC, c'est le sigle par lequel nous indiquons notre service commun d'interprétation, n'est pas seulement un organisateur et employeur d'interprètes, c'est aussi un formateur. L'efficacité de cette formation s'est révélée telle que des experts du monde entier viennent en observer le fonctionnement et que le service est appelé à contribuer dans le cadre accords de coopération de la communauté européenne, à la formation d'interprètes de conférences pour la Chine. Nous avons formé déjà le titre Pédagogie raisonnée de l'interprétation. L'Office des publications officielles des communautés européennes a édité en 1989 les résultats de l'étude effectuée par l'Université de Paris 3. C'est l'école supérieure d'interprètes et de traducteurs à l'Université de Paris 3 qui était dirigé jusqu'à il y a peu par Mme Seleskovic, en coopération avec le service commun d'interprétation-conférence de la Commission. C'est ainsi que la deuxième partie de mon exposé m'amène à vous parler de notre système de formation, du stage accéléré d'interprète de conférence, qui est décrit et dont les conditions d'admission sont décrites dans cette brochure, Interprète de conférence, formation et carrière au service commun, interprétation conférence, dont je laisserai quelques exemplaires au secrétariat de la conférence. Quels sont tout d'abord les candidats auxquels nous nous adressons? Ce sont, comme je le disais tout à l'heure, de jeunes diplômés de l'enseignement universitaire qui doivent avoir complété leurs études universitaires, Ils doivent avoir moins de 30 ans pour pouvoir profiter avec succès d'une bonne formation, mais s'il y a des cas intéressants, on peut appliquer une dérogation jusqu'à 33-34 ans. Et ils doivent connaître au moins 3 des 9 langues de la communauté européenne, langues maternelles comprises. Ensuite, les dossiers sont examinés, il y a une présélection qui se fait sur dossier, on fait attention par exemple aux éventuels séjours que le candidat a passé à l'étranger, ce qui lui a permis de se plonger davantage dans la réalité d'une langue, et les candidats qui sont convoqués à un test chez nous doivent faire la preuve lors du test d'avoir une aptitude pour l'analyse rapide et la communication orale. Ils doivent savoir s'adresser à un public, ils doivent faire preuve de réflexes rapides, ainsi que de cette curiosité dont parlait le professeur Salewski il y a peu, et qui est une des caractéristiques, je crois, fondamentales de l'interprète. Comment se déroule le test d'aptitude? Les candidats sont convoqués à Bruxelles ou aussi dans d'autres pays de la communauté européenne, car nous avons organisé aussi des formations décentralisées, surtout à l'occasion des élargissements. Il y a eu des formations à Madrid, à Lisbonne, il y en a encore à Athènes, car la pénurie d'interprètes grecs est très prononcée. Les candidats sont convoqués, je disais donc, à un test, et ils restent toute la journée en test. Les épreuves se déroulent ensemble. Tous les candidats sont face au jury et chaque candidat doit faire un exercice de consécutive. Un petit exposé lui est présenté pour chacune des langues qu'il présente, un exposé d'une durée de 2-3 minutes, et le candidat, qui ne doit avoir aucune expérience préliminaire d'interprétation, doit être à même de raconter dans sa langue ce que l'orateur de langue maternelle, qui est un des membres du jury, vient de lui dire dans une langue qui pour lui est étrangère. Ceci pour toutes les langues qu'il présente. Cela nous permet de voir les réflexes, l'aptitude à la communication et bien entendu aussi la compréhension des langues. Mais je dirais que, dans le cas d'espèce, la compréhension des langues est accessoire. Ne me comprenez pas mal. Accessoire parce qu'elle doit être acquise. Car le stage de formation de la commission n'est pas un stage linguistique. Les candidats doivent arriver avec leur bagage de connaissances générales, de connaissances linguistiques. Nous leur fournissons, nous leur apprenons la technique de l'interprétation. Comment s'organise le stage? Je vous ai dit qu'il a une durée de 6 mois. Les 2 premiers mois sont consacrés à la consécutive. Car la consécutive, comme chaque interprète sait, est la base du métier, même si les réunions en simultané sont la très grande majorité à la communauté européenne, même si plus de 90% des réunions se tiennent en simultané. Un interprète de conférence doit savoir faire la consécutive, et cette même consécutive lui sert de base pour un bon travail en simultané. C'est pourquoi les 2 premiers mois sont consacrés à la consécutive, et je dirais même que le premier mois ou les 3 premières semaines sont consacrés à des exercices de mémoire. Le candidat ne prend pas, le stagiaire ne prend pas de notes, il n'est pas autorisé à prendre de notes, il doit se concentrer sur un exposé qui lui est fait, sur des sujets d'actualité, de politique, d'économie, de science, et doit être à même de le transposer dans sa langue en faisant passer le message. On ne lui demandera certainement pas de retrouver toutes les expressions, tous les adjectifs, toutes les formules idiomatiques. On lui demandera de se mettre dans la situation dans laquelle il doit faire comprendre à une partie de l'auditoire qui n'a pas compris ce que voulait dire l'orateur, ce qu'est le message en question. Les formateurs sont des professionnels. Ce sont des interprètes fonctionnaires de la commission qui exercent leur fonction d'interprète quotidiennement en réunion et qui participent une, deux fois par semaine à la formation d'interprètes. Les groupes de stagiaires sont constitués de personnes qui sont de langues différentes, mais dont les langues passives et actives sont communes, de manière à former un groupe plurilingue où chacun peut travailler avec ses collègues stagiaires, car le stage est fondé aussi pour beaucoup sur le travail individuel et le travail de groupe. Les formateurs sont des professionnels, je disais, donc ils peuvent, au fur et à mesure de leur activité professionnelle, apporter dans ce stage leur expérience de tous les jours, fournir aux stagiaires interprètes l'expérience de la profession in vivo, je dirais. Au bout du deuxième mois, un test, et les stagiaires sont soumis à un test pour voir s'ils ont fait les progrès nécessaires en consécutive, s'ils ont acquis la pratique de la consécutive. Ce test est éliminatoire, car je pense qu'il n'est pas nécessaire de vouloir former de force un interprète. Si quelqu'un a le don pour cela, s'il a l'aptitude, alors en 6 mois, nous lui fournissons la formation. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'aurais dû le dire avant, nos taux de réussite au test d'aptitude, c'est-à-dire au test d'entrée au stage, sont très peu élevés, ils tournent autour de 15%. Mais nous pensons qu'il vaut beaucoup mieux demander à un candidat de perdre une journée avec nous et puis éventuellement de faire autre chose si ce n'est pas l'interprétation qui lui convient, plutôt que de s'embarquer dans une formation qui durerait 2-3 ans et qui, à la fin, le laisserait plutôt malheureux car il n'aurait pas réussi. 2 mois de consécutifs, je l'ai dit, ensuite 2 mois de simultané. On commence la simultané au début du 3e mois. Là aussi, l'approche est très pragmatique. On commence avec des simultanés de la langue maternelle vers la langue maternelle. Vous me direz à quoi est-ce que ça peut servir, mais ça peut servir à permettre aux stagiaires de se concentrer sur le message qu'il est en train de recevoir, de l'élaborer et de le restituer, éventuellement sous une forme légèrement modifiée, pendant qu'il écoute la deuxième partie du message, la partie successive du message. C'est la technique de la simultanée. Et vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, qu'elle n'est pas très éloignée de la consécutive, où l'interprète analyse le message qui lui est fourni, le décode, le recode dans sa propre langue et le restitue. En simultané, vous faites la même chose, sauf que vous le faites plus rapidement et pour des unités de messages, je dirais, plus réduites. Bien sûr, je simplifie, mais vous me comprenez. Exercice de simultané pendant 2 mois, mais sans pour autant abandonner la pratique de la consécutive. Et c'est ainsi qu'à la fin du 4e mois, il y a un autre examen, test éliminatoire de consécutive et de simultané. Je dois dire aussi que si le taux de réussite au test d'aptitude, au test d'entrée, n'est pas élevé, c'est que nous faisons une sélection assez sévère, mais en revanche, les taux de réussite au test éliminatoire du 2e et 4e mois sont très élevés et approchent les 85-90%. Les 2 derniers mois du stage sont consacrés à la pratique en réunion. Les stagiaires sont accompagnés par leurs formateurs dans des réunions qui se déroulent à Bruxelles. Bien entendu, ils n'interprètent pas car ils ne sont pas encore formés pour le faire et d'ailleurs leur statut ne leur permettrait pas. mais ils peuvent s'asseoir dans ce que nous appelons des cabines muettes, c'est-à-dire des cabines d'interprétation qui ne sont pas reliées à la réunion elle-même, et ils font avec leur formateur des exercices d'interprétation en direct, sauf que le micro est fermé. Bien sûr, il y a toute une partie d'émotion qui manque, mais je dirais que au moins la partie d'apprentissage est dans ce cas très, très importante. Bien sûr, les candidats au stage, les stagiaires, les candidats interprètes ont la chance de pouvoir évoluer dans un milieu multilingue, dans un milieu international, où les réunions sont le pain quotidien. Cela nous donne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la moitié de nos effectifs qui est actuellement formé, qui a été formé par le service d'interprétation. Vers quoi s'oriente cette formation? Je vous disais tout à l'heure que les besoins réels sont ce que nous recherchons, c'est-à-dire essayer de donner à chaque délégué ce dont il a besoin. Cela veut dire aussi que, surtout avec l'augmentation du nombre de langues prévisibles, que les interprètes les plus demandés dans des réunions à régime asymétrique et avec beaucoup de langues différentes, pas toujours les mêmes, sont les interprètes qui sont capables d'interpréter pas seulement vers leur langue maternelle, mais aussi vers au moins une autre langue de la communauté européenne. Ce que nous appelons le profil pour nos recrutements, puisqu'après la formation, on parle de recrutement, le profil est en train d'évoluer. Il passe d'un interprète connaissant beaucoup de langues et les interprétant vers sa langue maternelle à un interprète connaissant peut-être moins de langues, peut-être des langues plus exotiques, mais étant capable de les interpréter pas seulement vers sa langue maternelle, mais vers aussi au moins une autre langue plus généralement connue. Bien sûr, tout cela n'est pas très précis, car nous ne pouvons pas décider de ce que sera l'avenir linguistique de l'Europe. En tout cas, moi, pour ce que j'ai essayé de faire, j'espère avoir ainsi présenté de façon compréhensible quelles sont les exigences de l'interprétation aux communautés européennes et le système que la Commission a imaginé dès 1964 pour former ses propres interprètes, mais je suis bien entendu à votre disposition pour toute question que vous souhaiterez poser. Merci.